cette journée. Alors voilà les questions, hein. Je les prends comme ça, je sais pas s'il y a un ordre. Non. Bon, donc. Ah, voilà, attendez. Hein. Je vais pas les lire toutes. Hein. Ah, hein. La peine des douleurs de l'enfantement. Est-ce un travail d'après le péché? Après le péché originel. Oui, le labeur de l'enfantement. La force, attendez. Pour tous les gens. Mais oui. Augustin disait de son temps, des quantités de chrétiens vivent comme de l'Ancien Testament. Ils ne sont pas chrétiens. Le Saint-Père, dans sa dernière encyclique, Splendor Veritatis, qui est difficile à lire puisqu'elle est adressée aux évêques, bon, le Saint-Père dit textuellement, la foi des chrétiens a perdu sa vigueur première. J'ai trouvé ça très fort. Parce que Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il encore la foi? Je crois que c'est la première fois qu'un pape dit ça. Est-ce que les chrétiens ont encore la vigueur de la foi? Et le Saint-Père souligne l'originalité de la foi. Qu'est-ce que c'est que l'originalité de la foi? C'est de savoir que le chrétien, il est lié à une personne, au Christ, le Fils bien-aimé du Père, le Fils bien-aimé de Marie. Vous voyez, être chrétien, c'est une relation personnelle. Il est relationnel. reliée au Fils de Dieu. Sur la carte de visite du chrétien, j'ai cette relation. Je suis l'ami du Fils de Dieu, c'est pas si mal. Mais quand vous êtes l'ami de quelqu'un de très grand, l'ami du pape, c'est quand même quelque chose. Et c'est rien à côté de notre titre de chrétien. On est l'ami du Fils de Dieu. Et le Saint-Père dit que chez des quantités de chrétiens d'aujourd'hui, on a perdu l'originalité de la foi. Et l'originalité de la foi, le Saint-Père reprend dans toute son encyclique. Et toute son encyclique est commandée par ça. La rencontre du jeune homme riche avec Jésus. Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? C'est ça qui est important. On est ici sur la terre pour obtenir la vie éternelle. C'est une épreuve. La terre est une épreuve. C'est un temps d'épreuve. Si on est chrétien, si on n'est pas chrétien, la terre, c'est fait pour qu'on en jouisse le plus qu'on peut. Peu importe comment, par n'importe quel moyen, astucieux. Tandis que pour le chrétien, la terre est un temps d'épreuve. On a très peu ce sens-là, faut bien se le dire. On a très peu de comprendre que la terre, c'est pour gagner le ciel. C'est en vue de la vie éternelle. Saint Thomas a ce petit article que j'aime beaucoup. Quand il dit la nécessité de la foi, c'est pourquoi? C'est pour savoir que toute notre vie est ordonnée à la vision béatifique. C'est pour ça. Quelle distinction y a-t-il entre un chrétien qui a la foi et un type qui n'a pas la foi? C'est que le chrétien, il est ordonné intérieurement. Il est ordonné à la vision béatifique. Nous savons qu'un jour, nous verrons Dieu. Et c'est ça qui donne le prix à notre vie. Et qu'éternellement, nous serons en contact avec Dieu. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, chrétiennement, vous savez que éternellement, vous le verrez. Éternellement, on se retrouvera dans le ciel. D'une façon encore beaucoup plus directe que maintenant. Parce que maintenant, on se voit de l'extérieur. Là, on se verra de l'intérieur. Ce sera beaucoup plus beau. Vous voyez, c'est ça, la vie chrétienne. C'est savoir que on aime une personne qui nous aime. Et que cette alliance avec Jésus est plus forte que tout. Et que le chrétien est victorieux du démon. On n'a pas cette mentalité-là. Tu vois, on l'a aimé pendant qu'on est en retraite. Quand on est chez les moines, alors on a cette... On dit oui, on est victorieux. Mais dès qu'on part, tout de suite, on est dans un monde vaincu. Et je comprends, tu vois, c'est pas commode. Je comprends très bien, c'est pas commode du tout. Moi, je tâte le pot de Paris en prenant le métro à minuit. Et alors, on voit ce que c'est. À minuit, le métro n'est pas drôle. N'y allez pas, c'est pas la peine. Mais c'est pas drôle. Parce que c'est on sent des gens qui sont battus. Alors qu'on est des victorieux. Dans ce monde de vaincus, on doit être des victorieux. Et on doit pouvoir le dire. Parce qu'on est chrétien. Je me souviens, le jour où le pape est venu à Paris, ça fait déjà un petit moment, hein, à Notre-Dame. Tous les dominicains avaient remis leur habit dominicain. Tous les religieux avaient remis leur habit pour recevoir le pape. Et il y avait une joie extraordinaire. Et je regagnais le lieu où je devais aller, dans une petite rue. Et j'étais avec un autre père dominicain qui, ce jour-là, était en Dominique. Et il y a quelqu'un, une voiture, qui nous voyait joyeux, qui s'est mis à nous huer. C'est rare. Alors, quand c'est comme ça, moi je vais auprès des gens. Je dis, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous tracasse? Je me souviens, alors, une fois, en Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je croyais que la Suisse était un pays libre et qu'on avait le droit de s'habiller comme on voulait. Vous voyez, les gens suivent la mode, ils ne leur disent rien. Ben, j'ai le droit de suivre ma mode à moi, pourquoi pas? Je suis libre. Est-ce que la Suisse est un pays libre? Je suis français. Est-ce que la Suisse est un pays libre? Dites-moi, monsieur. Et bien ce jour-là, tu savais, je me suis approché de ce brave monsieur qui était dans sa petite voiture. Je lui ai dit, pourquoi? Vous êtes furieux qu'on soit joyeux. Et on est joyeux, pourquoi? Parce que nous avons un Père. Le Christ est notre Père et le Pape est le vicaire du Christ. C'est un représentant pour nous du Christ. C'est pour ça qu'on est joyeux qu'il soit là. Vous n'avez pas cette joie parce que vous n'avez plus de père. Vous êtes un orphelin, monsieur. Et vous avez toute la douleur de l'orphelin. Vous cherchez votre père, vous ne l'avez pas trouvé. Nous, on l'a trouvé. Alors, on a du temps gagné sur vous. Vous êtes vieux, j'ai pu partir comme un feu. Il ne faut pas hésiter. On est des croyants. Et il faut le dire. Quand on voit des gens qui savent plus ce que c'est, on est des témoins du Christ et des témoins de la victoire du Christ. Le Christ est ressuscité, il est vivant, il est là au milieu de nous. Et nous sommes dans la joie. Et les gens ne peuvent pas supporter des gens qui aiment et qui sont dans la joie. Parce que notre monde est triste, il est vaincu. Alors il y a du soubresaut du démon, de temps en temps. Il y a un fameux soubresaut actuellement. Alors je crois que c'est très très important cette remarque du Saint-Père. Il demande aux chrétiens d'avoir la vigueur de leur foi, comme les premiers chrétiens. Il voudrait qu'il y ait un renouveau dans l'Église, c'est-à-dire comme la nouvelle chrétienté, dans un monde qui se laïcise de plus en plus. Je crois que c'est ça. La jeunesse johannique, ça doit être ça. Vous savez ce que dit saint Thomas, hein, quand il parle de la sainteté de saint Jean. C'est merveilleux, toujours beaucoup d'un saint qui parle d'un autre saint. Et quand c'est Thomas d'Aquin qui parle de la sainteté de saint Jean, c'est quand même très beau. Eh bien, il donne trois qualités de la sainteté de saint Jean. Trois qualités. Et ça doit être nos qualités. Hein. Autrement, on n'est pas vraiment fils de saint Jean. On n'est pas lié à saint Jean. Première qualité, la perspicacité de l'intelligence. Jean avait la perception, et alors saint Thomas fait la petite remarque, un maître aime toujours mieux des disciples intelligents. C'est bien évident que le Christ aimait Jean parce que Jean était éveillé dans son intelligence. Il posait des questions à Jésus. Il voulait savoir qui était Jésus. Et ça vaut le coup, parce que c'est un homme extraordinaire, puisqu'il est Dieu. C'est l'union de Dieu et de l'homme, c'est fou, c'est fou. Et perspicacité de l'intelligence, maintenir cette curiosité par rapport à Jésus. Qu'est-ce que c'est Jésus? Qui est Jésus? Je veux le savoir. Planter du cœur. On l'aurait dit tout de suite, mais vous voyez, saint Thomas ne met pas ça en premier lieu. Perspicacité de l'intelligence, ce désir de vérité. Pureté du cœur. Et troisième note, la jeunesse. Et saint Thomas ajoute en parlant de la jeunesse. La jeunesse, oui, on donne des signes d'affection plus grands quand on a un cœur jeune que quand on a déjà un cœur un peu vieilli. Je trouve ça très beau. Saint Thomas reconnaît que être lié à saint Jean maintient en nous une jeunesse de cœur et d'intelligence. On n'est pas replié sur soi, parce que la vieillesse, c'est d'être replié sur soi. La jeunesse, c'est d'être jamais replié sur soi, c'est de tendre vers quelque chose de plus grand que nous. Tant que vous tendez vers quelque chose de plus grand que vous, vous restez jeune. C'est ça qui est merveilleux. Et Jean, c'est l'aigle. Alors c'est l'aigle qui maintient une soif d'aller toujours plus loin. Donc, je crois que c'est très très important pour nous de maintenir cette originalité de la foi chrétienne. On a découvert Jésus, le jeune homme riche qui interroge Jésus. Nous sommes des jeunes gens riches, des jeunes filles. quelque chose en nous qui demeure et qui nous fait comprendre l'originalité de la foi. C'est qu'on a rencontré Jésus. Et on veut le suivre. On met ses pas derrière le sien. Alors Jésus demande comme condition, ce qui n'est pas commode, vends tout ce que tu as et suis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les richesses que nous avons, intellectuelles, affectives, richesses matérielles, tout ça doit être relativisé par la rencontre avec Jésus. Tout doit prendre une nouvelle finalité. C'est ça, vendre ses biens. Quand on comprend ce que ça veut dire, pour que Jésus soit le bien, le seul bien. Et le bien, c'est celui qui nous attire. Le bien, c'est ce qu'on désire. Alors, ça, c'est capital de comprendre ça. C'est dans cette lumière qu'on doit regarder les conséquences du péché originel. Et les conséquences du péché originel, Jésus a permis qu'elles demeurent. Alors que, de fait, la croix du Christ aurait pu nous remettre dans l'Éden, dans le paradis terrestre. Jésus pouvait nous remettre dans le paradis terrestre. Il n'a pas voulu. Par amour pour nous. Pour qu'on ne s'endorme pas. Adam et Ève se sont endormis. Et c'est pour ça qu'Ève a péché. Elle s'ennuyait, Ève. Parce que je crois qu'Adam ne l'interrogeait jamais. Elle aurait été stupéfaite que quelqu'un lui dise « l'interroge ». Elle était stupéfaite de ça. Le démon est astucieux. Il voit tout de suite psychologie. Vous savez, c'est le premier des psychologues, le démon. C'est un psychologue remarquable. Il n'a plus la foi. Mais il a une connaissance perspicace. Il voit tout de suite les manques. En chacun d'entre nous, il y a un manque. Si je regardais bien, je verrais ça. Je ne le regarde pas trop. Mais il y a un manque en chacun d'entre nous. Et le démon asticote ce manque. Il l'agite. Et suis-moi, tu n'auras plus de manque. Suis-moi. Vous voyez, alors, où on suit le démon, où on suit Jésus. Il n'y a pas d'intermédiaire. Faites vos choix. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si vous ne suivez pas le Christ, vous suivrez le démon. Je vous affirme. Tôt ou tard, vous le suivez déjà, parce que vous refusez de suivre Jésus. Vous voyez, il y a un choix capital dans notre vie. Et c'est ça le chrétien, c'est celui qui a choisi le Christ. Si on n'a pas choisi le Christ, on n'est pas chrétien. Non. Et on est marqué au coin du chiffre de la bête. C'est dit dans l'Apocalypse. On est marqué du chiffre de la bête. 6, 6, 6. Et le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme. Hein ? C'est astucieux le démon. Il fait croire que c'est comme ça qu'on est un homme, en le suivant. Parce que soi-disant on est libre. Marqué du chiffre de la bête. Alors qu'on doit être marqué du chiffre du Christ. Et le chiffre du Christ, c'est ce mystère d'amour qui nous marque, lequel on doit être avec lui. Alors on sait que Jésus ne nous a pas remis dans le paradis terrestre. Pourquoi? Pour qu'on puisse coopérer à la rédemption du monde. Si on est l'ami du Christ, on doit faire la même œuvre que lui, puisque c'est le propre de l'amitié, c'est de faire la même œuvre que son ami. Si Jésus nous avait remis dans le paradis terrestre, on n'aurait pas pu faire la même œuvre que Jésus. Tandis qu'il nous laisse ici sur la terre, en luttant, et on lutte avec lui. Et en luttant avec lui, on fait la même œuvre que le Christ. C'est ça qui est merveilleux. Et la femme lutte autrement que l'homme. Les difficultés pour la femme d'être fidèle, c'est et les hommes voudraient dominer la fécondité. Ça, c'est la grande tentation. La grande tentation. Une tentation ultime. Alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre. La femme est gardienne de la fécondité et de l'amour. Elle est responsable de cela. Et l'homme est responsable de l'efficacité du travail. C'est très curieux, ça. C'est là où il y a complémentarité. Ça ne veut pas dire que l'homme ne comprend rien à la fécondité, pas du tout. Il doit le comprendre. Mais il est responsable de l'efficacité. Il est responsable du travail. Et la femme doit garder dans son cœur ce primat d'amour. Et rappeler constamment ce primat de l'amour et ce primat de la fécondité. Voyons tout de suite. Est-ce un devoir d'obéir à des ordres? Oui. On obéit à l'autorité. N'importe qui. Les lois iniques, on n'a pas besoin de s'y obéir. Et on est obligé aujourd'hui de regarder dans les lois celles qui sont humaines pour le bien de l'homme et celles qui ne sont pas pour le bien de l'homme. Une loi qui n'est pas pour le bien de l'homme et qui ne regarde pas le point de vue moral. Parce que ça touche l'autorité du Je dis oui, je te demande pas mieux. Alors j'avais devant moi un outil généraux. Et je voulais leur montrer la différence entre autorité et pouvoir. C'était très intéressant. Et après, il y a une petite discussion. Et je vous affirme que vous posez de bonnes petites questions. Autorité et pouvoir. L'autorité est un service. Le colonel est passé. Puis il l'a vu comme ça, sans tenue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Elle lui a dit. Il dit, on ne reconnaîtra pas l'autorité. On ne reconnaît pas l'officier, alors. Oui, mon colonel, on le reconnaît à sa gueule. Voilà. Et l'autre n'a rien répondu. C'était très bien. Vous voyez, c'est ça l'autorité. L'autorité n'a pas peur. Celui qui exerce l'autorité demande un acte d'obéissance. Et l'acte d'obéissance est une coopération entre celui qui a autorité et celui qui obéit. Tandis que le pouvoir n'implique pas nécessairement la coopération. Et donc celui qui a autorité n'hésite pas d'être tout proche de celui sur lequel il exerce l'autorité. Oui, je ne peux pas trop développer ça, mais je crois que c'est très très important. Et quand il s'agit de l'obéissance, c'est la seule manière de comprendre l'obéissance. Quand on obéit à celui qui a un pouvoir, ce n'est pas l'obéissance, vrai. L'obéissance n'est vraie que quand il y a coopération et qu'on fait la même œuvre que celui qui exerce l'autorité. C'est un service, l'autorité. On sert ceux qui nous sont soumis. Et on fait œuvre commune avec eux. Tandis que quand on a le pouvoir politique, qui n'est pas toujours un service, on domine et on ramène les autres à vous. C'est du côté de l'efficience. C'est pour ça que très facilement, le pouvoir devient tyrannique. Quand le pouvoir n'est plus un service, il est tyrannique. Et alors, on ne doit pas obéir à un tyran, parce qu'on doit regarder sa liberté intérieure. Ah, c'est pas commode, hein. C'est pas commode, il faut faire attention. Il faut faire attention à vous. Pour voir jusqu'où, à quel moment, celui qui exerce l'autorité n'a plus d'autorité. Il y a beaucoup de gens qui exercent l'autorité aujourd'hui et qui n'ont aucune autorité. Ils n'ont ni la compétence, ni le service. Ceux qui exercent l'autorité et qui ne sont pas très serviteurs, mais qui ont beaucoup de compétences, on leur pardonne pas mal de choses. Parce qu'ils ont la compétence. Augustin se pose la question. Ceux qui exercent autorité, faut-il mieux qu'ils soient aimés ou craints? Et saint Augustin répond, si vous exercez l'autorité, vous devez chercher davantage à être aimé que craint. Machiavel reprend la phrase de saint Augustin, ceux qui exercent l'autorité, faut-il mieux qu'ils soient aimés ou craints? Machiavel dit, il faut qu'ils soient craints, pas aimés. Parce qu'ils n'auront plus d'autorité. C'est juste l'inverse. Hein. Et on est sous le point de vue machiavélique. Machiavel exalte le pouvoir. Et ne sait plus ce que c'est que l'autorité. Alors, quand on ne sait plus ce que c'est que l'autorité, on ne sait plus ce que c'est que le service. Et on supprime l'obéissance. Celui qui a autorité est responsable de l'obéissance. Et il doit tout faire pour que ceux qui lui sont soumis obéissent, pour qu'il puisse y avoir une coopération et une œuvre commune qu'on fait. Et si le pouvoir emporte et prend tout, il supprime l'obéissance. C'est pour ça que c'est un problème très important, autorité et pouvoir. Il faut se rappeler souvent. Surtout si on doit exercer l'autorité. Chercher à être plus aimé ou craint. Donc tous ceux qui exercent l'autorité doivent se poser ce petit problème de conscience. Est-ce que je cherche à être craint ou à être aimé? C'est pas toujours commode. Hein. C'est pas toujours commode. On a des crapules, n'est-ce pas? Alors, de temps en temps, on est obligé de prendre le fouet. Et donc d'être craint. Mais il faut comprendre que si on fait ça, c'est parce qu'on a des personnes qui ne veulent pas coopérer. Et qui veulent tous aborder. Alors, quand on a des gens qui veulent tous aborder, et non pas coopérer, à ce moment-là, on doit leur faire comprendre qu'on est obligé vis-à-vis d'eux. C'est eux qui vous obligent à prendre le fouet. Jésus a pris le fouet, une fois dans sa vie, dans le temple. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une sainte colère du Christ. Alors là, il y a un sujet donc très vaste. Alors, réfléchissez sur autorité et pouvoir. Essayez de comprendre la différence qui existe entre les deux. Celui qui exerce autorité est finalisé par ce service vis-à-vis des autres et fait œuvre commune avec les autres parce qu'il cherche le même bien. Le même bien. Celui qui exerce le pouvoir n'a pas de coopération et ne cherche pas le même bien. Il domine. Alors, maintenant nous avons quelques petites questions sur le travail. Le travail est-il le même pour l'homme et pour la femme? Y a-t-il un travail de l'homme et un travail de la femme? Je crois qu'il y a une modalité différente pour la femme de travailler pour l'homme. On a fait ici, dans ce lieu, pendant tout le premier trimestre, jusqu'à Pâques, au plan philosophique, distinction de l'homme et de la femme au plan philosophique. Où doit porter cette distinction? Pas au plan psychologique, hein, parce qu'aujourd'hui on ne parle de l'homme et de la femme qu'au plan psychologique. Le grand danger aujourd'hui, c'est qu'on dirait que la psychologie doit nous gouverner. C'est ça, c'était le danger. Hein. Les psychologues deviennent les directeurs de conscience. Et le Saint-Père, dans son encyclique, Splendor Veritatis, montre que si on a l'autorité, on ne doit jamais faire passer devant la psychologie. La psychologie ne détermine pas une action humaine. Elle montre notre conditionnement. Elle rappelle notre conditionnement. Mais elle ne rappelle pas les décisions que nous devons prendre. Parce que la psychologie ne sait pas ce que c'est que l'amour. ce que c'est que l'amour. Alors on m'a dit après la conférence, il y a quelqu'un qui est furieux contre vous. C'est l'assistante Piaget à l'université de Genève. Piaget, professeur de psychologie. Il est furieux. Je dis, mais qui vient de me le dire, et qui vient de me dire comment la psychologie découvre que c'est que l'amour. Entre deux, on me dit, il est fiancé. Alors je dis, alors on est sauvé. Et il est fiancé, et sa fiancée est là. Alors je dis, sa fiancée est là, que sa fiancée vienne. Et puis on verra avec lui, on verra un petit débat. Il me montrera comment la psychologie de Piaget fait comprendre ce que c'est que l'amour. Alors, il arrive avec son épouse, du moins sa fiancée. Il était là. Alors je lui dis en face de sa fiancée, est-ce que la psychologie de Piaget vous a beaucoup aidé pour aimer votre fiancée? Grand silence. Et puis au bout de quelques instants, il me dit, non, ça ne m'a servi à rien. Je me suis retourné vers la fiancée. Je dis, heureusement pour vous, mademoiselle. C'est bien ce que j'ai dit. La psychologie ne sait pas ce que c'est que l'amour. Vous auriez fait la philosophie de l'amour, ça vous aurait aidé à aimer plus. Parce que le philosophe doit parler de l'amour. Il doit chercher à comprendre ce que c'est que l'amour. Et dès que notre intelligence, je ne dis pas notre raison, dès que notre intelligence éclaire un peu notre cœur à aimer, aimer vraiment, profondément, ça aide beaucoup. La psychologie regarde les obstacles à l'amour. Mais ne dis pas ce que c'est que l'amour. Or, les obstacles de l'amour existent, mais quand on aime vraiment, on est victorieux de ces obstacles. Rester tout le temps devant les obstacles ne vous rend pas victorieux de l'amour. Ne vous rend pas victorieux de ces obstacles. C'est sauf ça, grandissent. Donc, il faut comprendre ça. Alors, le travail est-il le même pour l'homme et pour la femme? Y a-t-il un travail de l'homme et un travail de la femme? Oui, je crois. La femme travaille autrement que l'homme. Autrement. Elle travaille, et quelquefois beaucoup plus que l'homme. La femme travaille tout le temps. Parce qu'elle travaille au bureau si elle doit être au bureau, et elle travaille en famille si elle est en famille. Elle travaille tout le temps. Tandis que l'homme, il travaille au bureau et en famille, il se détend. C'est quand même très différent, ça. C'est très différent. Et donc, il y a un double boulot pour la femme. Et quand elle a des enfants, elle ne peut plus. Elle est obligée, le plus qu'elle peut, rester en famille. C'est un autre travail. Le travail maternel est un travail épuisant. Parce que on n'a pas 10 heures de travail, on travaille tout le temps, même la nuit. Et une vraie mère veut que l'enfant reste toujours, quand il est petit, sous son regard. C'est ça qui est très beau. Il n'y a pas d'heure de travail pour une femme. Elle est toujours attelée. Vous voyez, si elle n'est pas mariée, ordinairement, elle est dévouée à des œuvres, elle est dévouée à autre chose que son travail. Et ses œuvres lui permettent de donner le meilleur d'elle. Elle est liée à la communauté Saint-Jean. C'est quand même quelque chose, c'est un gros boulot. Elle est liée à telle ou telle chose, à Saint-Jean Éducation. Elle est liée à telle ou telle Saint-Jean Espérance. Elle est liée à des œuvres. Ça, étonnamment, c'est beau et c'est grand. Et le meilleur d'elle passe par là. À maman, c'est ça qui prend tout. Et elle se travaille, elle donne ce qu'elle met le meilleur d'elle. La femme aime plus son travail que l'homme, ordinairement. Et donc, elle donne davantage de son cœur. Parce que la femme ne peut pas travailler sans que son cœur soit donné. Ça, c'est le propre de la femme. Tout est vu sous l'angle de l'amour. L'homme distingue plus le travail, le boulot, et puis le point de vue de l'amour. C'est ce qui doit se passer. C'est que l'homme donne autorité à la femme dans son domaine. Et la femme donne autorité à l'homme dans son domaine. Alors vous voyez, c'est une autorité qui s'inscrit dans l'amitié. Et non pas du tout une autorité naturelle. J'ai autorité sur toi parce que je suis plus intelligent que toi. Est-ce qu'un homme est plus intelligent qu'une femme? J'en sais rien. J'en sais rien. Elle a une autre modalité d'intelligence. Elle a ordinairement plus de finesse que l'homme. L'homme est plus carré. Il est plus logique. Et la logique, c'est pas l'intelligence. C'est pas l'intelligence, c'est la raison. L'intelligence, l'esprit de finesse, l'esprit de géométrie. Alors que l'homme soit plus calé dans l'esprit de géométrie, pas toujours. Il y a des femmes qui sont extrêmement puissantes en esprit géométrique. Même elles sont assommantes, n'est-ce pas, quand elles sont là très puissantes. Parce qu'elles ont perdu un peu de leur féminité, qui est l'esprit de finesse. C'est une intelligence liée à l'amour. C'est une intelligence qui regarde la personne. La femme regarde plus la personne. L'homme regarde plus la fonction. C'est curieux tout ça. C'est intéressant de voir ces choses-là, parce que c'est complémentaire, et ça doit être complémentaire. Vous avez dit, en supprimant l'obéissance, on supprime la volonté. Pourriez-vous préciser cette phrase? Dans quelle mesure l'obéissance fortifie, ou bien annihile? Très juste. Quand c'est l'obéissance, la fausse obéissance au tyran, ça nous annihile. Mais ce n'est plus l'obéissance. C'est une fausse obéissance. C'est parce qu'on a peur. Alors on n'aime plus. L'obéissance implique un amour et une coopération. Et c'est parce que ça implique un amour et une coopération que l'obéissance fortifie et éduque la volonté et nous permet d'aimer plus. Mais la véritable obéissance, pas du tout, vous voyez, le fait d'être obligé de faire ça, on le fait, mais on n'obéit plus. Vous savez, on voit très bien la limite, et c'est là où il faudrait bien voir la limite de l'obéissance. Quand vous obéissez en disant je fais ça parce que je suis obligé de le faire, et donc je le fais en rampant, sans aucun amour. Et je le fais même, souvent, en disant, tu vas voir, tu t'es trompé. Et on fait tout ce qu'on peut pour que ça rate. C'est pas obéir, ça. C'est tout simplement montrer à celui qui exerce l'autorité qu'il s'est trompé. Donc il n'y a aucune coopération. C'est pour ça que je dis, la véritable obéissance implique une coopération entre celui qui obéit et celui qui exerce l'autorité. On est attelé à la même œuvre, et on cherche à réaliser la même œuvre. Alors, quand on comprend ce que c'est que l'obéissance de cette manière-là, on comprend que l'obéissance nous fortifie, parce qu'elle nous permet d'entrer dans les intentions de quelqu'un qui a de plus de compétences que nous, quelqu'un qui a plus d'expérience que nous, quelqu'un qui connaît mieux ce que c'est que le cœur de l'homme et le cœur de la femme. Alors, à ce moment-là, obéir, c'est nous agrandir. Quand on obéit, on a la vision de celui qui exerce autorité sur nous. Et on fait œuvre commune, donc on s'agrandit. Et c'est dans ce sens-là que l'obéissance fortifie et que la suppression de l'obéissance, donc de l'autorité, enlève l'éducation de la volonté. Comment éduquez-vous votre volonté? Alors c'est capital d'éduquer sa volonté. La volonté, c'est notre capacité d'aimer. On n'a pas éduqué sa capacité d'aimer. Et si on n'éduque pas sa capacité d'aimer, bon, il n'y a pas de coopération. Et il n'y a pas de volonté. La volonté n'est pas seulement une volonté d'efficacité, c'est premièrement une volonté d'amour. Et en obéissant, on apprend ce que c'est que d'aimer. Et d'aimer gratuitement. Parce que l'obéissance est. L'amour est toujours gratuite. Et l'amour, quand il est fort, se réalise dans l'obéissance. exactement ce que c'est que la volonté. C'est tellement important. Parce que moi, c'est ce que je constate le plus, c'est la difficulté. La difficulté, c'est très vrai, pour les jeunes, pour les novices. La difficulté, c'est d'éduquer leur volonté. On l'avait peut-être trop insisté avant, au début du siècle. Certains genres d'éducation, vous savez, l'éducation à la mode des pères jésuites. Ben, je l'ai connu, moi. J'étais élève des pères jésuites. Vous savez ce que c'est? C'est pour ça que je me suis fait dominicain, vous comprenez? Parce que on désire autre chose. On désire que découvrir que la volonté n'est pas faite pour l'exécution. La volonté est faite premièrement pour aimer. La parole de saint Augustin. J'aime et je veux aimer. Alors là, on comprend que c'est spirituel la volonté. Et que la volonté est source d'amour. D'un amour spirituel. Et que dans la mesure où on aime, on veut aimer. Alors, je termine à toute vitesse. Travail, contemplation. Pouvez-vous nous parler des deux attitudes fondamentales de l'homme sans les opposer, comme on a souvent tendance à le faire, c'est vrai. La contemplation, c'est l'amour. Le travail, c'est l'efficacité. L'amour, c'est la fécondité. Le travail, c'est l'efficacité. Il ne faut surtout pas les opposer. Mais il faut voir que c'est différent. La vie active, c'est l'efficacité. La vie contemplative, c'est l'amour. Dès que vous aimez, vous êtes contemplatif. C'est très curieux. C'est comme ça. Je me souviens, c'est un bon petit frère convert qui était très amusant. C'était chez les Dominicains, dans le temps. Alors, l'oraison du matin, il se mettait toujours à une place comme ça, comme je m'occupais des frères convert. Je lui demandais pourquoi tu te mets là. Il dit parce que j'aime beaucoup ce petit novice. Alors, pendant le temps de l'oraison, je le regarde, je l'aime, alors je contemple. C'était merveilleux, c'est merveilleux. Un bon frère convert. Ennoblir l'homme. Où le travail ennoblit-il l'homme? On commence à s'inquiéter. s'inquiéter, hein. On commence à s'inquiéter de ça. De façon très nette. Et c'est toujours la relation du travail et de l'amour. C'est l'amour qui est à la source du travail. Et l'amour, le travail doit permettre à un amour de rester réaliste, de rester vrai, de ne pas tomber dans une espèce d'idéalisation. C'est l'équilibre entre les deux, qui n'est pas commode. Ça, je suis tout à fait d'accord que c'est pas commode du tout. Direz-vous, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui ? Je crois qu'il faut, comme toujours, quand il y a des crises et des déséquilibres énormes, il faut la base, il faut par le point de vue de la base, il faut reconstruire des cellules de travail. Je crois. Les trusts, c'est plus humain. L'homme n'est plus là. On regarde que les calculs. Et on regarde que ça. L'équilibre budgétaire, c'est la seule chose qu'on regarde. C'est effrayant. Alors on est devant des chiffres. Et quelquefois le chiffre de la bête. Parce que c'est peut-être ça que ça veut dire le chiffre. C'est un chiffre d'homme. Et quand vous regardez le chiffre à la place de regarder l'homme, vous n'êtes plus dans une chose humaine. Et donc chacun là où on est, on doit retrouver cet équilibre. On ne doit pas considérer que c'est l'État qui nous donnera. Non, non. C'est nous qui devons moraliser l'État. C'est nous qui devons convertir l'État. Ce n'est pas l'État qui va nous convertir. Et chaque chrétien doit comprendre ça, là où il est. Il doit rééquilibrer, rehumaniser ce qu'il doit faire. Ce qui est très difficile. Quel est le devoir du chrétien par rapport aux responsabilités dans le travail? Voilà. D'une part, le souci de ne pas prendre la première place, se préserver de du pouvoir et de l'argent, oui. Rectifier son tir, rectifier l'intention profonde de son travail. Je travaille pourquoi? Je suis un caisse travail. On me demande de faire ça. Pourquoi je travaille? Et en vue de quoi je travaille? Rectifier notre finalité humaine. Si on est chrétien, on travaille pour la gloire de Dieu et on travaille pour l'amour des hommes. Et on essaie de coopérer avec ceux qui sont proches de nous en les connaissant et en les connaissant comme des hommes et en les aimant et en créant des amitiés. Je crois très fort à ça. Je crois qu'aujourd'hui, le point de vue, vous voyez, quand vous vous élevez jusqu'à l'État, les relations ne sont plus humaines. C'est ça qui est terrible. Alors il faut recréer un tissu humain autour de nous. Recréer un tissu humain. Et dans tous les domaines, jusque dans la vie religieuse. Pourquoi y a-t-il moins de vocations? C'est parce qu'au fond, on l'a dit. C'est pas parce qu'il y a moins de vocations, c'est qu'il n'y a plus de lieu où les vocations peuvent s'épanouir. Et les vocations divines doivent s'épanouir divinement et humainement. Et donc il ne faut pas retrouver des lieux où on s'aime vraiment. Et c'est en s'aimant qu'on a le désir d'un travail authentique et vrai, là où on a ce travail. De fait, mon métier dans la vie religieuse a été d'enseigner, et la philo. Vous voyez, il y a manière d'enseigner la philo. Est-ce qu'on enseigne la philo par amour pour nous ou par amour pour l'étudiant? Au seul choix, on disait, il y a deux espèces de professeurs. Il y a les professeurs qui aiment leurs cours, et il y a les professeurs qui aiment les étudiants. C'est tellement vrai. Et prenez cette distinction, vous la verrez partout. Les hommes d'affaires, est-ce qu'ils aiment leur affaire ou est-ce qu'ils aiment les gens qu'ils aident? Les banques sont faites pour aider. Hein? Elles ne sont pas faites pour s'enrichir. Une banque qui est faite pour s'enrichir va nécessairement à la faillite. Tout à l'heure, elle atteindra un sommet. Et puis après, chut, la dégringolade. Parce que c'est plus humain. Tout ce qui n'est pas humain est fait pour être détruit. c'est ça le jugement dernier. C'est que Dieu viendra, Jésus viendra pour nous montrer tout ce qui est factice, tout ce qui n'est pas humain. Où il n'y a plus de relations humaines, avec des relations factices. Alors on doit, chacun d'entre nous, si on est chrétien, dans le boulot qu'on a, on doit maintenir des relations humaines le plus qu'on peut. D'autre part, donc, laisser à des organismes, des organisations, les postes clés, les laisser détruire la famille et le travail, c'est sûr. On est dans un climat de lutte.